Bienvenue, en tout cas, merci d'être venu. Je me suis installée dans cette nouvelle activité depuis un an et demi maintenant. Auparavant, j'étais dans le domaine de l'agriculture, mais du côté administratif. J'ai travaillé à l'INAO, à la DDTM de l'Hérault, notamment sur les aides à la bio. Mais depuis toute petite, je voulais m'installer en agriculture. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait un BTS production animale à la base. Et la vie a fait que je n'ai pas pu m'installer plus jeune. Et c'est la rencontre avec mon nouveau chéri, il y a quelques années, qui a permis de relancer ce projet. Parce que lui, ça l'intéressait aussi beaucoup en parallèle de son travail, de créer quelque chose quoi, dans le domaine de l'agriculture en plus.
Bah juste moi, voilà, donc moi je suis que conjoint collaborateur, hein, Kevin, je suis sur l'exploitation, donc je ne travaille que les week-ends et le soir ou le matin pour faire les livraisons.
Sinon, mais en réalité c'est le chef. Hein.
Non, mais, et moi je travaille à côté de ça, je travaille à l'agence de l'eau. Aujourd'hui voilà, je m'occupe d'agriculture à l'agence de l'eau sur le territoire ici. Hein, voilà.
Donc, pendant longtemps, on a cherché un endroit où s'installer. C'est quelque chose qui est très, très compliqué au niveau de l'agriculture dans l'Hérault, particulièrement. On a mis plus de 2 ans à réussir à trouver un endroit où on pouvait construire des bâtiments agricoles. Bon, on avait une contrainte, c'est qu'on voulait une maison sur le terrain parce qu'on a 3 ados et que passer par la case mobilhome, ça ne nous semblait pas possible. On est bien content de l'avoir évité. Mais il y a toujours quelque chose qui empêche la construction du bâtiment agricole. Soit c'est inondable, soit c'est les zones naturelles, soit le PLU ça permet pas, soit on a même eu une zone archéologique, soit je sais plus quoi, ouais, on a tout eu.
Le risque incendie aussi, feu de forêt, etc.
Voilà, ça c'était des soucis d'ici. Mais on a fini par trouver ici, on était très 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 heureux. Et du coup, on a pu commencer à créer...
Enfin, juste, c'est super dur dans l'Hérault, parce qu'on avait aussi la contrainte d'être à 1 heure de Montpellier. Voilà.
Oui,
après,
aussi.
On peut aller beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus facile, mais voilà, 1 heure de Montpellier,
ouais,
par rapport à mon... Voilà,
et après, c'est le budget, évidemment.
Oui, bah après, avec 1 million d'euros, on peut faire pas mal de choses, mais on avait beaucoup moins, donc voilà,
c'est
plus compliqué.
Donc ça c'est une vraie contrainte, contrainte liée en plus à l'eau courante.
C'est la spécificité.
Ouais.
Alors,
liée à notre élevage.
Ouais, l'idée de l'installation c'était donc un élevage de poules pondeuses avec transformation. C'est un atelier de transformation en tant que tel, mais c'est juste de l'emballage des œufs. Mais malgré tout c'est donc emballer ses œufs chez soi. C'est un atelier agroalimentaire à part entière, aux normes, au plus haut niveau de normes qui existent, puisque c'est les normes CE. Et donc, qui dit normes CE, dit eau potable. Et donc eau potable, nous, il fallait qu'on soit à la fois isolés pour ne pas gêner les voisins avec notre élevage, mais en même temps, il fallait avoir l'eau potable du réseau. Donc ça aussi, c'était un élément de contrainte qui était hyper fort.
Bon, depuis, ça évolue.
Ouais, enfin, il y a des interprétations. Il y a des
interprétations. Et la DDP depuis.
Et la DDT. Voilà, ils font 3 dans la partie, là, mais c'est... Mmh. Voilà, parce qu'il y en a qui considèrent absolument que atelier agroalimentaire, ça veut dire eau potable. Et il y en a qui ont une interprétation un peu plus fine parce que, en fait, dans notre process, nous, de transformation, l'eau n'intervient pas et n'est jamais au contact des œufs. Donc, il y en a qui considèrent qu'une eau propre et pas forcément potable peut suffire. Et on a d'ailleurs des collègues qui se sont installés...
ils ont fait agréer leur forage.
Oui, ils ont fait agréer leur forage, ouais. Mais ils ne sont pas sur une production d'eau potable. Si, ils l'ont fait agréer, eux. Si, eux, ils l'ont fait agréer, ouais.
Il y a
un peu de tolérance qui peut exister a priori, mais c'est assez lourd, quoi. Du coup, en termes de normes, c'est assez lourd.
Donc là, on est sur un format de 3 bâtiments de 90 mètres carrés. Avec 400 poules par bâtiment, mais on est en rotation, ce qui fait que, et actuellement, mais on est en rotation en fait, pour avoir toujours un niveau de ponte constant, merci, pour pouvoir toujours fournir en fait le maximum. Donc là, il vide actuellement. On a réformé les poules il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois maintenant.
Ouais.
À partir de... Un an, alors ça leur fait 1 an et demi de vie, un an qu'elles sont là, ou un peu plus si c'est des très bons lots. l'auto de ponte n'est plus suffisante pour être économiquement viable pour nous, en fait. Sauf si on vendait des œufs beaucoup plus chers. Donc, à ce moment-là, il faut qu'on les fasse partir. Nous, notre objectif, ça a été de trouver des familles pour toutes nos poules, ce qu'on a réussi à faire, donc on était contents. Bon, il y en a qui ont dû être mangés hein, dans l'eau, je ne sais pas, mais il y a eu à peu près 60 personnes qui sont venues et qui ont racheté nos poules, en fait. Ah, voilà.
Mais la filière, elle est construite comme ça, en fait, en poule pondeuse, c'est un an de production. Et après, abattoir. Enfin, en gros, hein, le schéma, c'est elles arrivent à 16 semaines, elles sont prêtes à pondre, elles pondent un an, et après, elles partent à l'abattoir. Voilà,
c'est... Les achetées, donc, on est déjà assez grandes.
Oui, on les achète prêtes à pondre, en fait, à 18 semaines.
C'est pas vos poules qui font les poussins, il n'y en a pas du tout qui reproduisent.
Non.
C'est un tout autre travail.
D'accord.
Ouais. C'est un tout autre travail de faire éclore des poussins, c'est déjà un premier travail. Ensuite, de faire d'élever des poussins, c'est un second travail. Et le troisième, c'est les poules pondeuses.
D'accord.
Mais c'est un projet qu'on a par contre. On aimerait essayer.
Déjà, de commencer à démarrer au stade poussin.
Ouais. Justement, il y a vraiment des races hyper sélectionnées depuis des années en France. On n'a pratiquement plus de pure race en France, hein, je crois, hein, qu'on est que sur des croisements, que ce soit en viande ou en pondeuse. Donc nous, on a des races rousses de poules pondeuses. Alors il y a plusieurs sous-races après. Nous, on a des Highline, ça s'appelle des Highline et des Laoman. Donc c'est des poules rousses qui ont été sélectionnées pour pondre en fait, qui ont un bon taux de ponte. Et qui ont été sélectionnés quand même pour être adaptés à la conduite en bio comme nous. Parce qu'à la base, ils avaient sélectionné que des poules pour être en cage. Et donc, ils ont adapté leur sélection pour que quand même elles soient un petit peu plus rustiques, quoi.
Ouais, en fait, tout ce qui reste comme choix pour les éleveurs aujourd'hui dans des schémas un peu, malgré tout, un peu productifs comme le nôtre, hein, où on est quand même à 800 poules, bon, c'est tout petit, hein, les normes en cage, etc., c'est plutôt du 10 000, 20 000, voilà, donc c'est minuscule, hein, 800 poules, ça paraît gros, mais c'est tout petit. Mais en gros, il n'y a que ces poules rousses, ces souches de poules rousses qui sont quand même productives, même si elles sont adaptées au plein air. C'est dans notre schéma économique où nous, on ne fait pas de la vente, que de la vente directe, donc on fait surtout du circuit court, mais pas en vente directe. On ne peut pas se permettre d'avoir d'autres races. Il y a d'autres races encore qui existent, des races rustiques comme la Marant ou Marant, je ne sais jamais comment on dit, mais qui va avoir des taux de ponte de l'ordre de 50-60%. Nous, notre rentabilité, elle est à 70%. Donc si on a ces poules-là, il y a des éleveurs qui travaillent avec ça, mais principalement, ils font de la vente directe. Ils vendent les œufs à 40-45 centimes, sinon ils ne peuvent pas s'en sortir. Nous, on est plutôt sur un prix de vente qui peut paraître déjà élevé, hein, mais on est autour de 30-31 centimes. Et avec ce type de poule-là, ça passe tout simplement pas, quoi.
Oui, puis un problème, c'est que aussi, dans la filière bio, pour avoir des poulettes prêtes à pondre en bio,
le choix est...
On a ces races-là qui nous sont...
Voilà, le choix est assez réduit, quoi. Il y aurait un travail à faire, hein, sans doute, pour gagner en rusticité, mais on n'a pas beaucoup de choix.
Il y a abattage, parce qu'elle est... aujourd'hui, comment ça fonctionne. L'objectif de la journée, c'est quand même de mettre en relation des producteurs et des restaurateurs. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à développer sur la poule? Donc elle est bio, l'œuf est bio, j'imagine la poule aussi. Donc du coup, quelles sont les réflexions? Vous êtes dans quelle démarche aujourd'hui?
Il y a un vrai souci dans l'Hérault, c'est qu'il n'y a pas d'abattoir bio de volaille.
Moi, mais il y a un projet effectivement d'abattoir mobile. Qui circulerait un petit peu partout pour pouvoir aller chez les producteurs et faire l'abattage chez les producteurs. Donc là, ça a été c'est un projet qui est mené avec l'INRA, et là ça a été un peu relancé, proposé dans les différents PAT sur les territoires, puisqu'en fait c'est vraiment une problématique hyper globale, pas que dans le même au-delà des frontières de l'Hérault. Donc c'est toujours en cours, et voilà, c'est ma collègue Céline Mendes qui travaille là-dessus. On espère que ça va aboutir, parce que ça répond à une vraie demande des producteurs.
En passant par l'abattoir, etc. Alors il y a le problème du bio ou pas bio, parce qu'effectivement elles pourraient perdre leur agrément si on est sur un abattoir non bio, mais bon, après tout, ça reste aussi quand même de la viande d'origine qui est bio, et c'est local, donc ça peut quand même intéresser des restaurateurs. On ne s'est pas renseigné, bon, mais bon, des frais d'abattage, on va vite tourner à. Je pense qu'on va vite tourner autour de 2 euros la poule. Donc, ça va nous amener à 7 euros sur l'animal. En viande, ça va faire. Voilà, 7, on va vite être à 7. On va, allez, on va la vendre à 9, 10 euros. Une poule. C'est même pas un poulet. Bon, ça va coûter cher pour quelque chose qui a peu de viande. Hein. C'est un animal qui va faire en prêt à cuire, ça va faire 1 kilo quoi. C'est le schéma économique, il n'est pas évident. Donc souvent il faut les vendre un peu moins cher. Donc ça nous ramènerait nous à une rentabilité pour nous, pas à 5 euros, mais peut-être à 3 ou 2 quoi. Peut-être qu'on sera amené à y réfléchir quand même et que ça se fera. Moi, avant, j'étais directeur d'une ferme de lycée agricole et j'avais aussi une poule pondeuse bio. Et donc là, quand on les faisait partir, c'est un camion qui venait les chercher. Hein, soit ils nous les prenaient à 50 centimes, au mieux à 1 euro, et des fois c'était zéro. Donc là, dans ces cas-là, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un atelier de transfo en plus sur place. Et effectivement, on les faisait abattre, on les transformait et on les revendait. Et effectivement, et on a fait tout avec les poules, hein. On a fait même du saucisson de poule, des rillettes, donc c'est...
Saucisson light.
C'est très light, ça sèche très vite aussi, mais c'est... Donc effectivement, il y a un intérêt, et c'est vrai que pour des élevages même plus gros que nous, nous, on a réussi notre coup avec nos 400 poules, mais dès qu'on en a un peu plus que ça, ça peut être assez compliqué, quoi, de réussir, donc... Et puis nous, alors, on a un système aussi où on est très souple, parce qu'on a nos 3 bâtiments, on en a tout le temps un qui est vide. Donc, on a du temps entre les lots, en fait. On se donne du temps pour faire nos vides sanitaires, etc. Normalement, les éleveurs, enfin, souvent, le schéma, il est un peu plus optimisé que le nôtre. Et donc, ils doivent faire leur rotation rapidement. Et donc, les poules, faut qu'elles, quand elles commencent à plus être rentables, il faut qu'elles partent vite. Et donc, comme elles doivent... Nous, on a quand même mis un mois à les vendre. Hein. Si on doit les faire partir en 10 jours, là, la solution abattage et vente, elle est encore plus intéressante. Et donc il y a, il y a sans doute quelque chose à réfléchir là-dessus.
Bah, en gros, on a 700 œufs. On a la moitié qui part sur 2 biocoques. Et après, on a la restauration collective Passe Muraille et MFR maintenant.
C'est pas Passe Muraille, c'est de la terre
à la terre.
Il y a aussi un peu Passe Muraille.
Oui, les chantiers bio, c'est.
C'est plus facile de dire Passe Muraille.
Donc de la terre à l'assiette, qui développe en plus.
Oui.
Voilà. Oui.
Et donc, on se développe avec vous, hein, en fait.
Voilà. Donc on a maintenant, on livre dans le Gard les pads.
Exactement.
À Saint-Hippolyte.
Et bientôt, qui sac.
Maintenant, on doit tourner à 600 en moyenne. 600 par semaine. Ouais.
Voilà, 600 par semaine, ouais. Deux par 15 jours.
Et après, en client, après, c'est des paniers, en fait, dans lesquels ils rajoutent nos œufs.
Chambre d'hôte aussi.
Ouais, voilà.
Et on fait un tout petit peu de vente directe.
Bon, pour le village, en fait.
Voilà.
Et avec la restauration traditionnelle, vous avez aussi des clients dans les restaurants, peut-être vous avez
dans... Non, on a le mastroquet.
Si, on a le mastroquet de Vacquer, ouais.
Il y a une vinatera qui fait de temps en temps, et masse de roux, et c'est tout. Hein.
Ouais.
Mais ça vient peut-être, oui. C'est les questions de distribution peut-être qui sont complexes là avec la restauration. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous fassiez la livraison. On vous demande la livraison ou
Oui. Après, c'est une question de contact. Oui, effectivement, on a pareil, tous ceux de Vacquer, de Masse de France, etc. Ils nous prennent nos œufs. Mais après, on n'a pas
spécialement eu de demande
d'un restaurateur. Enfin, c'était pas. Voilà.
Après, je sais pas si les restaurateurs travaillent beaucoup sur de l'œuf coquille, mais je sais pas. Je sais pas.
Avec de l'œuf coquille.
Ouais.
Pas tout en bio. Enfin, on a des bio, tout ce qui est petit déjeuner. Et puis après, pour l'instant, c'est encore il y a des Canadiennes d'œufs classiques.
Ouais.
Ça va bien.
D'accord. Ok. Voilà. Mais nous, on fait. Ouais, d'accord. Mais nous, quand on n'est pas loin, en fait, sur des distances comme ça, là, quelques dizaines de kilomètres, enfin 10, 15, 20, on peut livrer des petites quantités, quoi. On peut livrer, enfin, je sais pas ce que c'est vos quantités, mais sur. Ouais, mais ça, on peut livrer. Pour voilà, ça vaut le coup d'aller se déplacer là pour 15, 20 kilomètres dans un rayon comme ça, des quantités comme ça, on peut tout à fait faire, quoi. Voilà, c'est tout à fait compatible avec ce qu'on est capable de faire, etc. Il y a pas de.
Mais c'est là où ça devient intéressant par rapport avec l'Auberge du 7 par exemple et la MFR de Paris, c'est qu'à la limite moi je prends les œufs ici, donc je me déplace, je viens les chercher, peut-être se mettre en rapport et que ben, après derrière ils viennent les chercher à la MFR.
Eh oui, mais ça c'est ça tout à fait.
Livraison,
bien sûr.
Bien sûr. Ça leur fait moins loin. Enfin, ouais. Donc voilà, ouais. Peut-être qu'après c'est à nous de faire sur l'ensemble du territoire de voir comment on peut faire
ça. Donc nous, après nos contraintes, en fait, parce que je sais que c'est important d'en parler dans ce contexte-là, c'est qu'on ne travaille qu'avec un produit extra frais. Et en gros, on essaye au maximum de tout vendre, de vendre que des œufs qui ont moins de 5 jours, en gros, quoi. Parce que les clients sont contents quand ils sont plus frais que frais. Et donc, c'est là où on a des difficultés. Parce que bah, justement face à des irrégularités de commandes par exemple, face à des périodes où il y a moins de besoins, par exemple les biocoops, pour, comme ça c'est pas que les restaurateurs qui ont des soucis de les biocoops par exemple au moment des fêtes ou l'été, chute de vente dans les magasins, du jour au lendemain se retrouve avec moitié moins de commandes. Et ça, pour nous, ça c'est compliqué de gérer ça parce qu'on est à flux tendu en fait. C'est pas des produits comme. Enfin, si, l'œuf c'est 28 jours. Mais nous, dans ce qu'on vend, c'est moins de 9 jours. Quoi.
Ouais, après, donc, mais juste, c'est vrai que justement, le fait en restauration collective, on n'a pas la même contrainte de l'ultra frais presque. Et ça nous a permis des fois aussi de faire tampon et d'avoir, bah ouais, là des œufs de 5-6 jours, là on peut les passer, c'est pas un souci. Alors que quand on vend en boîte pour être dans un rayon, les gens, bon, c'est des œufs un peu chers évidemment, hein, c'est des œufs bio qui sont vendus dans les magasins à 3 euros. Donc à Lidl, on trouve des œufs bio à 1,60. Donc évidemment, ils veulent de l'ultra frais, ils sont prêts à mettre le prix, mais ils veulent, voilà. Et c'est vrai que là, du coup, on est contraint de les vendre presque comme des produits. C'est 8 jours quoi, quasiment, alors que c'est après, 28. Et...
Là où c'est intéressant justement, c'est d'arriver à assembler les pièces du puzzle avec, par exemple, si vous, en été, il n'y a pas d'école, c'est fermé, donc il n'y a forcément pas d'activité. Nous, en été, c'est le maximum de l'activité.
Tout à fait.
Et on avait réalisé ça, nous, avec les légumes, on travaille avec les vides.
Du Tiens-Jardin, voilà.
Et quand on était allé le solliciter, il a dit « Oh, mais moi, ça ne m'intéresse pas, je vais aller me prendre toute ma marchandise et qu'est-ce que je fais de mes clients en personnel ?» Ok, donc on lui a juste laissé regarder comme ça quels étaient nos achats en légumes sur une année.
Ouais.
Ah, ça fait réfléchir quand même. parce qu'on a une capacité de restauration de 100 personnes le week-end. Oui, 100 couverts jour. Jours en semaine, plus les petits déjeuners, 66 déjeuners tous les jours, sur mi-mars jusqu'à mi-novembre. Et donc en fait, il s'est aperçu que ben, en été, effectivement, ses clients individuels, ils étaient tous en vacances et que donc il avait un réfléchissement au moment de sa production maximale.
Ouais.
Et que nous, nos besoins, c'était au maximum et que l'hiver, on est fermé et donc on n'a pas de besoin, évidemment.
Ouais.
Et donc, cette conjonction-là de différents rythmes de professionnels,
oui.
C'est vachement important de réfléchir là-dessus parce que ça renforce le réseau
tout à fait.
Tout à fait.
Mais pour nous, c'est super important aussi parce que justement l'été, bah, nos clients classiques, ça diminue fortement. Et on a très bien travaillé avec
Saïd,
Moussaoui, qui fait des paniers.
Et donc,
qui fait des paniers, qui fait de la vente bord de route, des stands bord de route. Et là, l'été, ça nous a. Ça a explosé, quoi. Enfin, ça a marché super bien. Et donc, c'était hyper complémentaire.
Ouais.
Et donc, et typiquement, voilà, nous, c'est clair que pour l'été, enfin, tous les producteurs d'œufs, je pense qu'ils sont dans le même schéma. C'est-à-dire qu'ils ont leur vente classique tout l'hiver, etc. Et l'été, tous ces clients traditionnels diminuent. Et donc là, sur la restauration, etc., c'est sûr que c'est hyper intéressant.
Et après, il y a une deuxième chose qui est intéressante avec la restauration. Selon vos besoins, est-ce que vous prévoyez de cuisiner, c'est qu'à chaque fois qu'on a des débuts de l'eau, on a des tout petits œufs en fait.
Ah oui.
Et ces tout petits œufs, on a vraiment un problème de débouché. Et ça peut intéresser les restaurateurs parce que justement, du coup, ils sont moins chers. Et vous, bah, pour faire une omelette,
faut en mettre plus.
Voilà, faut en mettre plus, mais.
Ils ont deux jaunes.
Mais ouais, mais là, on les vend moins cher.
En fait, c'est un omelette, hein, je veux dire, pour en avoir déjà pris.
Oui, c'est des œufs.
Quand on a le plaisir de les casser, qu'il y a deux jaunes.
Oui, parce qu'en plus.
Une crème anglaise qui ressemble à une vraie crème anglaise parce qu'il y a du jaune d'œuf et du vrai jaune d'œuf. Voilà, ouais. Ça, c'est pas grave.